Le journal.
6h-9h le samedi. L'époque.
L'époque chamboulée à l'heure du coronavirus, épreuve qui suscite bien sûr des craintes, des inquiétudes, mais cette crise est peut-être aussi l'occasion d'apprendre à vivre autrement, à changer nos rapports au temps, notre rapport aux autres, à se recentrer sur l'essentiel. Et si au fond, le coronavirus était une chance pour repenser l'époque, changer nos vies en mieux? C'est la réflexion qu'on a décidé de vous proposer désormais dans ce rendez-vous du samedi matin, avec des invités qui nous apporteront leur éclairage sur ces changements et nous aideront à rester optimistes pour penser l'après. Et ce matin, on va s'intéresser à nos voisins.
Vous avez de la chance de ne pas habiter dans mon immeuble. Parce qu'en ce moment, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respire à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respire à l'étage en dessous. Alors le locataire du dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus. Et à mépriser celui qui est en dessous. Bon, je suis au-dessus de ça.
Des voisins sans dessus, dessous, le sketch bien sûr de Raymond Devos pour ouvrir avec le sourire cette discussion. Bonjour Maxime Felder.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, collaborateur scientifique au laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL. Vous avez notamment fait votre thèse sur la coexistence et les liens sociaux en milieu urbain. Vous avez beaucoup travaillé sur les relations de voisinage, les relations de quartier. Est-ce que cette période actuelle, c'est pour vous un formidable champ d'observation ?
Oui, tout à fait, parce que ce type de crise exacerbe ou au moins rend visible des phénomènes ou des dynamiques qui existaient déjà avant. Et même si on n'a pas encore vraiment fait d'enquête à proprement parler, il y a des liens intéressants à faire avec ce qu'on observe ou ce que d'autres ont observé sur le rôle du voisinage en temps de guerre ou en période de catastrophe, par exemple.
Quel parallèle ?
Il y a aussi des éléments qui semblent vraiment nouveaux. C'est ce quasi-confinement, en fait, soit le fait de devoir vivre avec ses voisins, justement, 24 heures sur 24.
Vous nous parliez du parallèle qu'on pourrait faire avec les temps de guerre, les temps de crise. Quels seraient ces parallèles ?
Alors, ce que les chercheurs ont observé, c'est que les relations d'aide se basent en premier sur les réseaux préexistants, qui sont eux-mêmes basés sur des affinités, sur des proximités sociales et non physiques. Mais on voit aussi qu'en fonction de la gravité et du besoin, cette solidarité, elle peut s'étendre aux voisins qu'on n'a jamais vus ou qu'on n'a jamais rencontrés. Par contre, ces situations, elles n'arrivent pas dans un vide. Et il ne faut pas oublier que les relations, elles ne sont pas soit positives, soit absentes. Elles peuvent aussi être tendues, conflictuelles, et ce, depuis longtemps. Et là, la crise, et puis peut-être en particulier le confinement, n'arrange rien.
Et est-ce que cette crise, de façon générale, avant d'entrer dans le détail, elle est à vos yeux, Maxime Felder, une chance pour repenser nos relations entre voisins, renforcer ces liens, particulièrement quand on habite en ville ?
Oui, tout à fait. Parce que quand on me demande en temps normal si le manque de relations de voisinage est inquiétant ou problématique, j'ai tendance à dire que c'est plutôt bon signe, parce que ça signifie que les gens ont d'autres appuis, qui peuvent compter sur d'autres formes d'aide, familiale, amicale ou de l'État, et donc on n'est pas dépendant de nos voisins. Et ce que cette crise peut nous montrer ou nous prouver, c'est que à partir de cette situation-là, quand le besoin se fait sentir, eh ben on est capable de passer sur un autre mode et d'activer des relations qui sont peut-être dormantes et d'activer cette ressource-là qu'est le voisinage.
Avec ce sentiment, quelque part, que nos voisins peuvent nous être utiles, et on l'observe là en ce moment, quand on ne peut plus voir sa famille, ses amis, par respect de ces mesures de distance sociale, finalement, celui ou celle qu'on voit le plus, c'est notre voisin, notre voisine.
Oui, il y a des formes d'aide que seule la personne qui habite immédiatement à proximité peut fournir, et en ce sens-là, c'est une ressource qui n'est pas complètement remplaçable par d'autres formes d'aide. Parce qu'il y a cette accessibilité directe, on va dire. Et effectivement, quand on ne peut plus se déplacer, eh ben là, alors on est d'autant plus interdépendant.
Est-ce que ça force aussi à s'ouvrir davantage à nos voisins, hein? On connaît la formule, on ne choisit pas ses voisins, mais là, en ce moment, on partage tous la même chose avec eux. Est-ce que ça remet aussi un peu en cause le principe de distance, hein? Je crois que c'est un principe présent dans la littérature sur la sociologie du voisinage, la juste distance à trouver entre voisins. Là, ça tombe un peu, elle recule, cette distance-là.
c'est ça, c'est qu'il y a ces deux normes qui peuvent entrer un peu en conflit. D'une part, le fait de garder une distance cordiale pour respecter la vie privée de l'autre. Et puis le deuxième ou l'autre pan, le fait d'être prêt à aider en cas de besoin. Et effectivement, de solliciter l'aide des voisins, ça veut aussi dire t'aider un petit peu de sa vie privée. Quand un voisin se propose de faire les courses, ben c'est formidable. C'est formidable. Et d'un autre côté, quand on lui transmet notre liste de courses, ben voilà, on lui livre un petit peu de notre intimité et des choses qu'on aurait peut-être voulu garder pour nous.
Il y a ce sondage réalisé par Sotomo pour la SSR, publié la semaine dernière, qui nous dit que 20% des Suisses aujourd'hui apprécient l'amélioration du contact avec le voisinage. Il vous surprend ce chiffre, Maxime Felder ?
Non, il me surprend pas tellement. Il y a pour une partie des gens qui ont pu profiter de cette situation pour accroître les liens, peut-être parce qu'ils en avaient aussi plus besoin ou parce qu'ils en avaient envie tout simplement. Mais ça montre aussi que voilà, 80% considèrent que ça n'a pas changé. Et puis un autre chiffre que livre cette étude, c'est 37% qui considèrent que les gens s'évitent davantage dans leur voisinage. Ça montre qu'il y a aussi une face sombre à ces relations en temps de crise, parce que les voisins peuvent aussi être vus comme une menace et donc susciter de la méfiance.
Alors des faces sombres, des faces plus lumineuses aussi. Hein. On a vu plusieurs initiatives d'entraide, faire les courses pour un voisin âgé dans son immeuble, sortir son chien, organiser la garde d'enfants. Ça, c'est le principal apport de cette crise, c'est l'entraide, c'est le lien qui se crée, Maxime Felder.
Oui, alors comme je disais, c'est surtout des relations qui préexistaient, même si elles n'étaient pas vraiment développées, et du coup qui s'activent durant cette période. Mais évidemment, je suis sûr que beaucoup de gens auront, on va dire, profité de cette situation pour mieux connaître leur entourage. Et c'est l'entourage social, donc c'est les gens qui vivent autour d'eux, mais c'est aussi leur quartier, découvrir des choses qu'ils avaient peut-être jamais eu l'occasion d'apprendre à connaître.
Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'Oliviane, une mère de famille de 3 enfants qui vit sur les Hauts-de-Lausanne. Une maman qui, elle, a toujours fait l'école à la maison et dans le contexte actuel bien particulier, son expérience est précieuse. Et elle a décidé de la partager avec ses voisins sur un groupe WhatsApp d'entraide spéciale famille.
Dans ce quartier, nous sommes 3 familles qui faisons déjà l'instruction en famille en temps normal. Et du coup, on souhaiter pouvoir un peu partager des ressources pour les familles qui se retrouvent soudainement en école à la maison forcée, pouvoir s'échanger du matériel, s'échanger des livres quand on en a marre de lire toujours les mêmes livres qu'on a chez nous.
Pour ma part, je dirais que le plus facile pour que les journées ne se ressemblent pas, c'est vraiment de partir des intérêts de l'enfant. Donc, par exemple, si l'enfant aime les oiseaux, on peut lire des livres en lien, faire des bricolages avec ça, pourquoi pas écrire une histoire. Donc on peut pas hésiter à sortir, profiter du temps dehors pour pouvoir observer la nature. Alors attendez. Je continue. Donc aussi pouvoir lâcher prise et puis ma foi, on fait du mieux qu'on peut comme on peut.
Voilà, témoignage d'Oliviane avec un petit bout de ses enfants aussi, témoignage recueilli par Joël Cachin pour le magazine 15 minutes. Donner des conseils aux autres parents pour faire l'école à la maison, partager des ressources comme le disait Oliviane, ça illustre bien, Maxime Felder, ces nouvelles dynamiques qui se mettent en place entre voisins.
Oui, donc elle se base sur des gens qui étaient peut-être particulièrement ancrés dans un quartier parce qu'ils y passaient beaucoup de temps, comme cette dame qui donnait déjà l'école à la maison, ou sur les associations de quartier existantes qui peut-être donnent le petit coup de pouce pour que ce type d'initiative puisse fonctionner.
Alors il y a les conseils pratiques, les services qu'on se rend entre voisins, et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la culture du balcon, se retrouver tous les soirs pour applaudir les soignants, mais aussi pour chanter, pour danser ensemble parfois, ou même pour jouer à Question pour un balcon.
Question pour un balcon, c'est le seul jeu qui ne se joue pas à la télévision et qui se joue en direct depuis le balcon.
Bonsoir la Rue Saint-Bernard et bienvenue à Question pour un
Tout le voisinage attend un peu ce moment, un peu comme une boule d'oxygène. C'est le moment où on ouvre tous nos fenêtres, où on peut se regarder, on peut se parler, on peut rire ensemble. C'est le moment, mon moment préféré de la journée. On est tous confinés, on est tous entre quatre murs. Moi, je suis très content d'avoir des voisins aussi fous que moi.
Combien y a-t-il de cases sur un échiquier?
64.
Qui a dit ça?
Moi.
C'est bon,
on se retrouve demain. Pour question pour un balcon, à demain tout le monde.
Voilà, extrait d'une interview de Noam Catorzo, le fondateur de ce jeu Question pour un balcon, interview réalisée par nos confrères du Parisien. On l'entendait, bulle d'oxygène, important de rire ensemble. Quel regard vous portez, vous, Maxime Felder, sur ce genre d'initiative?
Oui, une bulle d'oxygène, on aurait aussi pu dire une soupape, parce que en temps normal, on essaie de baisser un peu le niveau sonore et... par égard pour les voisins avec qui on cohabite durablement pendant cette période-là. Et donc pendant une petite période, que ce soit pour un jeu, pour de la musique au balcon ou pour simplement applaudir, et ben on se permet de manifester sa présence de façon audible, on va dire. Et là, il y a une question rituelle et symbolique extrêmement forte.
Et vous parlez de rites, vous avez travaillé notamment sur la fête des voisins, vous dites cette fête-là, c'est un rituel conjuratoire. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi là dans le fait de se retrouver comme ça sur les balcons?
Oui, c'est ça, c'est un rituel qui permet de mettre en scène le collectif. Quand on applaudit à la fenêtre, on se prouve que même si on est chacun chez soi, et ben on vit un petit peu de la même chose, on est sur la même longueur d'onde, et puis même si après quelques minutes on referme sa fenêtre et on se retrouve à nouveau seul dans son salon, ben on est un tout petit peu rassuré. Dans ce sens-là que je dis que c'est un rituel conjuratoire comme la fête des voisins, c'est que même si c'est une fois par année, eh ben ça nous permet de nous rassurer un peu sur le fait qu'on est capable de se réunir, on est capable de faire collectif au moins temporairement, et donc on conjure cette crainte qui est ancienne et récurrente sur l'individualisme des citadins.
Et si le coronavirus nous rapprochait, si la crise actuelle renforçait les liens avec nos voisins, permettait davantage de solidarité dans nos quartiers? Des questions qu'on se pose ce matin dans l'époque avec Maxime Felder, docteur en sociologie urbaine à l'EPFL. Cette solidarité, est-ce qu'on peut dire qu'elle est la même dans tous les quartiers, ou que ça peut différer selon le fait qu'on habite en centre-ville, en zone périurbaine? Est-ce qu'on arrive à distinguer des différences géographiques?
Alors ça, c'est peut-être la faiblesse du sondage dont on parlait tout à l'heure, hein, qui différencie pas entre ces différentes configurations. Et puis, comme je vous disais, il n'y a pas encore réellement d'enquête. Maintenant, les enquêtes préexistantes sur les rapports de voisinage montrent qu'il y a des différences, mais qu'il n'y a pas non plus de clivage très fort entre, par exemple, ce qu'on pourrait projeter sur le milieu rural, qui serait plus solidaire et avec des réseaux sociaux plus denses, et les centres-villes. En fait, ça dépend énormément à une très petite échelle de est-ce que des gens ont trouvé des affinités, se sont trouvés suffisamment similaires dans leurs besoins, dans leur façon de voir les choses, et ont pu nouer des liens ou pas. Donc je pense que ça se joue plus qu'une différence entre milieu urbain, milieu périurbain, ça se joue plus à une plus petite échelle sur une certaine homogénéité de la population.
Avec une tendance aussi qu'on observe ces dernières années à vivre son quartier un peu comme un village, hein, on en avait parlé d'ailleurs ensemble dans cette émission l'année dernière. Est-ce que cette tendance-là à s'investir dans son quartier, elle peut se renforcer? Est-ce que ça va renforcer ce côté un peu cocon, un peu village d'un quartier en ville, selon vous, Maxime Felder?
Oui, c'est possible, parce que comme on le disait, il y a beaucoup de gens qui n'ont simplement pas l'occasion, en fait. Même s'ils ont cette aspiration à vivre dans un quartier village, ils désiraient en faire leur cocon, et ben voilà, ils travaillent peut-être 5 jours sur 7 dans une autre commune, et peut-être qu'ils ont leurs loisirs et leurs amis ou leur famille ailleurs, et donc ils n'ont simplement pas l'occasion. Donc peut-être que cette crise offre justement cette occasion de se sentir dans un cocon et de vivre exclusive, l'entier de ses activités dans le quartier. Maintenant, on peut aussi imaginer que si ce cloisonnement relatif est vécu comme une contrainte, eh ben on sera aussi tout content d'en sortir une fois que ce sera passé.
Maxime Fellière, je vous propose maintenant un deuxième témoignage, celui de Catherine Christen. Elle a 68 ans, elle vit à Lutry dans le canton de Vaud. Elle est membre active dans le projet de quartier solidaire mis en place par ProSénec Touté. Plusieurs fois par mois, elle et d'autres seniors se retrouvent pour aller randonner, visiter un musée ou juste boire un café, c'est les fameux cafés rencontres. Des projets qui évidemment sont tombés à l'eau avec l'arrivée du coronavirus.
D'un seul coup, je me suis retrouvée avec une gomme en main et puis j'ai pu effacer toutes les pages que j'avais remplies dans mon agenda 2020, mais ça je le faisais vraiment rigolant parce que je trouvais que c'était tellement cocasse comme situation.
Et comment est-ce que vous faites du coup pendant cette période pour quand même garder le lien avec ces personnes?
Alors on dispose tous d'une liste téléphonique avec les noms et les prénoms si on a envie justement d'entretenir un peu le principe du café rencontre, mais ce sera le café téléphone, voilà.
Vous prenez le téléphone tous les combien de temps pour appeler quelqu'un dans...
Ah mais plusieurs fois par jour.
C'est important pour vous?
Bien sûr, parce que c'est aussi une façon de maintenir le lien social.
S'il n'y avait pas eu cette initiative de ProSénec Touté de quartier solidaire, est-ce que vous pensez que vous vivriez cette période de la même manière?
Pas sûr. Ces personnes-là, elles habitent dans mon quartier, mais ça faisait 33 ans que j'habitais à la même adresse. Je les avais jamais rencontrées jusqu'alors. Aujourd'hui, elles forment un peu le cercle autour de moi. Pour avoir cette certitude qu'il y a un entourage et puis qu'on est attentif les uns envers les autres. Je trouve que c'est très important. Il n'y a pas un seul moment une impression de solitude.
Pas de solitude grâce à un entourage, un cercle autour de moi, de voisins. On est attentifs les uns avec les autres, dit cette seigneur à Joël Cachin pour le magazine 15 minutes. C'est aussi ça, Maxime Fellière, la force des quartiers solidaires lancés par ProSénec Touté. Ils prennent tout leur sens là dans la crise qu'on traverse.
Oui, c'est ça. Et ça montre à quel point c'est important, à quel point ces structures préexistantes sont importantes, c'est-à-dire le rôle qu'a joué ProSénec Touté, pas depuis le début de la crise, mais qui joue depuis des années. Et puis, cette dame le disait bien, en fait, c'était des personnes qu'elle avait l'habitude de voir et elle avait l'habitude de s'en soucier déjà avant. Et donc, au moment où c'est plus possible de se voir, c'est possible, par contre, de mettre en place, par exemple, là, dans ce cas, une chaîne téléphonique. Mais ça, ça se base sur quelque chose d'existant.
Est-ce que les initiatives d'entraide qui sont plus fortes en temps de crise, ça montre aussi que le collectif prend plus de poids quelque part sur l'individuel, sur l'anonymat aussi? C'est un peu le retour du collectif en ville. On pourrait espérer ça aussi de cette crise-là qu'on traverse?
Oui, c'est possible, même s'il ne faudrait pas... placer peut-être trop d'espoir dans le fait que ça va changer fondamentalement notre façon d'être ensemble, parce que comme on le disait tout à l'heure, on a aussi ce besoin d'une certaine distance, et l'anonymat c'est aussi quelque chose dont on profite quand on vit en ville. Il y a aussi une forme d'aspiration à ce qu'on appelle l'inattention civile, le fait de ne pas être sans cesse sous le regard des autres qui nous entourent. Voilà, comme je disais, ce que ça va changer probablement, c'est de nous prouver ou de nous rappeler que le collectif, il peut se mobiliser en cas de besoin, puis se dissoudre à nouveau, et on sait qu'il sera, que même si on le voit pas et même si on l'active pas, on sait qu'il est là.
Avec aussi peut-être d'autres limites à cet élan de solidarité qui est peut-être aussi une solidarité de circonstances. Hein. En ce moment, il y a peut-être l'hypothèse qu'une fois que ce soit derrière nous tout ça, on reprendra tout comme avant et que le voisinage 24 heures sur 24, ça aura suffi.
Oui, et je pense que c'est pas grave. Vraiment, je pense que tant qu'on est capable de se mobiliser quand c'est nécessaire, c'est tant mieux. Par contre, une limite dont on n'a pas parlé, Peut-être c'est que certaines personnes sont à même de demander de l'aide, elles se sentent peut-être légitimes de le faire, elles sont capables de décrypter le mot qu'un voisin a déposé dans la cage d'escalier, et d'autres pas, d'autres n'osent pas, d'autres ne se sentent pas légitimes ou ne connaissent pas simplement les ressources qui sont à disposition. Donc il y a toujours ce risque que dans ces initiatives solidaires, eh ben, il y a des gens qui passent simplement entre les mailles du filet, on va dire. Et ces différences dans l'accès au voisinage en tant que ressources, elles existent de manière générale. Donc peut-être que ce que ça aura permis de faire aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on leur témoigne notre présence bienveillante en tout temps, pas seulement en temps de crise. Et donc ça, c'est peut-être aussi un apport de nous rappeler ça.
Ça, c'est peut-être une leçon qu'on pourrait tirer. En tant que sociologue, vous regardez de près cette crise-là. Il y a déjà peut-être des études, des enquêtes qui sont en train d'être menées par vous, par vos collègues du laboratoire de sociologie urbaine à l'EPFL, en mode télétravail peut-être en ce moment.
Oui, exactement. J'ai des collègues qui sont en train de monter une enquête par questionnaire sur les réaménagements du foyer qui tout d'un coup devient aussi un lieu de travail, parfois même plusieurs lieux de travail quand c'est des colocations, par exemple des collègues qui habitent en colocation et tout d'un coup l'appartement se transforme en espace de coworking pendant la journée, même s'il pouvait déjà l'être avant. Ça prend une dimension un petit peu différente quand c'est aussi le cas de la personne qui habite à gauche et aussi le cas de la personne qui habite en dessus et en dessous.
Une fois cette crise derrière nous, Maxime Felder, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que vous avez une prédiction de sociologue ou juste un souhait de citoyen, d'habitant d'une ville de Suisse?
Non, alors on essaie de se retenir de faire des prédictions en tant que sociologue, mais probablement que ça aura pu augmenter un petit peu plus la confiance qu'on porte dans les autres. Et si on continue à parler de ces initiatives telles que vous l'avez fait dans cette émission et que ce type d'initiative perdure et que les gens prennent goût à y participer, eh ben on aura un héritage un tant soit peu positif à cette crise.
Héritage qu'on pourrait tirer de cette crise. Merci beaucoup Maxime Felder, docteur en sociologie urbaine à l'EPFL. Merci d'avoir partagé vos réflexions sur nos relations de voisins qui pourraient changer aussi en bien à cause ou grâce à cette crise qu'on traverse en ce moment. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or.